Bienvenue dans Sereine, le podcast qui remet ton bien-être au centre de ton attention, parce que même si ici on parle d'atteindre ses objectifs, de techniques et astuces de coaching de vie, d'exploration de soi, de couple et de tout autre sujet, on garde bien en vue qu'il n'y a pas de recette universelle et surtout que, quoi que tu accomplisses ou non d'ailleurs, ce qui compte c'est la façon dont tu le fais, la façon dont tu te ressens et juste que tu sois bien, sereine, vibrante sur ton chemin de vie. C'est tout ce que je te souhaite. Moi, je m'appelle Laura Cardozo, je suis coach de vie et j'ai un grand plaisir à t'accompagner sur ce chemin vibrant grâce à ce podcast, mais aussi grâce à mes services de coaching. Tu pourras aussi me retrouver sur YouTube si tu as envie d'en savoir encore plus et j'ai très grand plaisir à me retrouver avec toi pour parler de ces sujets. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que j'ai du mal à adresser, où je ne sais pas trop comment je vais le commencer, même si je sais que j'ai beaucoup de choses à dire. On va parler sororité, on va parler blessures liées à cet esprit de sororité. On va parler, je pense pas, donc je précise, hein, que la sororité soit un problème, pas du tout. Je pense que nous, les femmes, on n'a pas toutes appris à être à l'aise et à être bien entre femmes. Parce qu'on a, posons les mots directement, peut-être beaucoup de misogynie, oui c'est ça, misogynie internalisée. Et plus j'avance sur ces sujets-là, plus forcément ça fait écho à des histoires dans ma vie, à des choses que j'ai pu expérimenter, à des blessures, à voilà. Et je me dis, je suis pas toute seule. Et quand j'ai ce désir profond pour les activités de mon entreprise, d'aider les femmes à connecter avec d'autres femmes qui sont inspirantes, qui sont audacieuses, qui sont visionnaires, qui sont magnétiques, qui sont belles, qui sont puissantes, et à connecter entre elles avec cet esprit de soutien, d'amour, d'admiration, c'est tellement important. Je crois qu'il y a des guérisons extrêmement importantes et que quand on veut travailler avec des groupes, comme là j'ai très envie de le faire, quand on veut mener une communauté, quand on veut instaurer une forme de mouvement, on ne peut pas ne pas avoir cette conversation. Je ne sais pas si je suis claire, mais voilà. Et il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Je pense vraiment que, en tout cas, personnellement, être admiratrice, soutenante, etc., envers les autres femmes, je pense que c'est quelque chose que j'ai vu, évidemment, dans mon enfance, mais j'ai aussi beaucoup été présentée, j'ai beaucoup vu des situations où les femmes entre elles se moquaient, où il y avait de la compétition, où il y avait du jugement, tellement de jugement et de compétition. En fait, c'est tellement lourd. Honnêtement, c'est encore pour moi quelque chose de ça, comment dire, c'est pas que ça me fait de la peine, mais je trouve ça tellement dommage et je le vois encore tellement présent dans une partie de mon expérience de vie que ça me peine et je trouve ça tellement dommage parce qu'il y a autre chose qui est possible. Et je dois vous dire que depuis que j'ai appris à être en groupe de femmes, donc notamment en rentrant dans des coachings, en suivant des formations sur le féminin sacré. Et depuis que j'ai commencé à faire le travail sur moi par rapport à ces blessures-là, je connecte avec des femmes qui ne sont justement pas du tout dans cet esprit de compétition, qui sont soutenantes, qui sont tellement belles. Mais je les trouve tellement belles à l'intérieur et à l'extérieur. Les femmes avec lesquelles j'ai envie de connecter, j'ai envie d'être amie, j'ai envie de... Il y a une admiration tellement profonde pour la femme qui est en train de grandir et de grandir au fur et à mesure que je fais ce travail intérieur. Et quand je vois mes clientes et quand je vois les femmes qui viennent à moi, je me dis mais on est extraordinaire et j'aimerais que tout le monde puisse le voir. Cette compétition entre femmes, honnêtement, je l'ai ressentie et je l'ai vue, je pense quasiment, je dirais peut-être pas depuis ma naissance parce que je ne l'ai pas ressentie à ce moment-là évidemment, mais peut-être intégrée ou quoi. Et il y a eu des choses où tout d'un coup, peut-être même entre petites filles, on cherchait l'attention en particulier de quelqu'un ou d'un groupe. Et je pense que tout ça, toute cette compétition, toute cette parfois misogynie interne qu'on a à l'intérieur, ça vient effectivement du fait qu'on est dans un modèle de société qui est patriarcale, qui est, mon Dieu, qui est tellement, qui a mis une telle pression à la fois sur la performance et la réussite des hommes, mais sur celle des femmes, au fur et à mesure que les femmes ont commencé à se libérer, à reprendre un petit peu de pouvoir, à reprendre un petit peu de place dans cette société. Je pense que il y a eu ce concours de circonstances où, à la fois, en tant que femme, on a voulu se libérer, être vue, être remarquée, réussir, gravir les échelons, etc. Parce que ça a aussi été présenté dans les années 80 comme, tiens, on peut être l'égal des hommes, on doit être l'égal des hommes, et du coup, on va fonctionner comme des hommes, et donc on va être dans cet esprit un petit peu de compétition, dans cet esprit un petit peu vertical. Donc je pense qu'il y a eu une forme de mimétisme sur un fonctionnement de la société telle qu'elle était, dans un premier temps, et ensuite parce que c'est comme ça en général qu'est envisagée la femme, et c'est encore le cas. Je veux dire, aujourd'hui, nous avons, quoi qu'on en dise, encore des juges, des concours dans les villes, dans les régions, dans les départements, au niveau national et dans le monde entier pour savoir qui est la plus belle. Qui est la plus belle? C'est quand même, y a quand même un truc un peu dingue là-dedans, tu vois, où quelque part, pourquoi on a tant besoin de ce jugement-là? Pourquoi on a tant besoin de cette validation-là? Parce que peut-être le savoir et la vraie, je dirais, la vraie indépendance que peut-être ont eu certaines femmes au Moyen-Âge, parce qu'il ne faut pas se mentir, hein, avant le 15e, entre le 15e et le 17e siècle, avant cette période-là, au Moyen-Âge, les femmes, elles avaient du pouvoir, elles avaient des métiers de connaissance, elles étaient parfois les seules à savoir faire des choses. Il y avait des poétesses, il y avait des médecines, des femmes médecins, pardon, il y avait des sages-femmes, il y avait des herboristes. Et ces femmes, elles avaient la connaissance, ces femmes, elles avaient. Il y avait effectivement aussi certainement des femmes plus mystiques. À mon avis, dans ces époques-là, et peut-être que je me trompe et que je suis en train de réviser l'histoire, mais à mon avis, même s'il y avait aussi une forme d'oppression, une forme de domination qui était présente, il y avait aussi un savoir qui était transmis de génération en génération sur la valeur. Et je pense aussi que c'est ce savoir-là et cette indépendance-là, et cette indépendance-là des femmes qui certainement a fait peur à une certaine époque à l'Église. Mais passons ça, cet esprit de compétition, il est resté, et c'est ce besoin peut-être que nous avons pu avoir de prouver, parce qu'à l'intérieur de nous, pendant, je pense, des années, la génération de nos grands-mères, la génération peut-être encore de nos mères, et peut-être encore la mienne jusqu'à un certain âge, on nous a dit, on nous a fait comprendre, même si on ne nous l'a pas forcément dit, que même si on était géniale et fabuleuse et tout ce que tu veux, eh bien, on aurait besoin d'un homme, on aurait besoin d'un partenaire, on aurait besoin de la validation d'être la plus belle, on aurait. Voilà. Et je vous parlais la semaine dernière avec Thaïs, quand on a parlé d'énergie féminine dans les relations, etc. Aussi, on a eu des exemples dans les films, dans les chansons, de à quel point c'était normal d'avoir des comportements toxiques envers notre partenaire, mais du coup aussi envers les autres femmes. Je sais pas si on a vraiment eu. Tu vois, il y a eu des girls bands quand on était jeune, mais il n'y a jamais eu vraiment, je crois, en tout cas moi je ne me vois pas vraiment de modèle, de grand respect entre femmes. Déjà parce que je pense que en règle générale, par exemple en politique, dans la chanson ou n'importe quoi, une femme qui réussit, une femme qui a qui a une grande aura, une femme qui performe, et on le voit encore par exemple avec une Taylor Swift, qu'on aime ou qu'on n'aime pas cette personne, elle est surcritiquée, et ce serait un homme, ce serait tellement pas le même discours. Donc il y a naturellement cette pression envers les femmes, cette critique et ce truc de « elle n'est pas parfaite, elle devrait être comme si, on comprend pas pourquoi on la voit tout le temps, pourquoi elle réussit, etc. » Peut-être que je mélange beaucoup de sujets, mais voilà, je vous dis, c'est un sujet un peu particulier. Et on a une telle pression, et entre nous, il y a vraiment, je pense, ce besoin de commencer à comprendre que nous n'avons pas besoin de nous jalouser, que au contraire, nous pouvons nous aimer, nous pouvons être ensemble, nous admirer, nous pouvons travailler ensemble. Et je pense que je vais vous lire là maintenant un extrait d'un mail que j'ai reçu de Sabrina. Sabrina, c'est une de mes auditrices, ça a été aussi une de mes clientes en yoga. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait de séances ensemble. C'était trop cool d'ailleurs quand je vivais en région parisienne. Et donc, il n'y a pas très longtemps, dans ma newsletter, j'ai dit, voilà, je vais faire ce sujet sur la blessure de la sororité, sur la blessure, la difficulté que parfois on peut avoir d'être entre femmes, de se sentir safe entre femmes ou dans un groupe de femmes. Parce que je pense qu'on a tout en tête ce groupe de mean girl, vraiment de meufs pas gentilles qui critiquaient tout le monde au collège ou qui sont, je sais pas, assises à une table et qui passent peut-être leur temps à critiquer les autres, à se moquer, etc. Ça ramène beaucoup de souvenirs, ça, dis donc. Et donc voilà, et du coup elle m'a fait une réponse qui est assez développée, je vais vous en lire quelques passages, et du coup je vais pouvoir, je pense, rebondir là-dessus. Elle me dit « Je saurais pas vraiment par où commencer entre la société qui nous met en concurrence les unes avec les autres, à qui sera la plus belle pour plaire au prince charmant, pour décrocher un poste, trouver des clients, et les compétitions de Miss, et aussi tous les sports féminins comme par exemple la gym, le patinage, où on passe devant un juré qui nous juge et met des notes, alors que les hommes sont plutôt encouragés en général à pratiquer des sports d'équipe où ils doivent s'entraider pour gagner. » Tiens, ça, j'avais pas du tout vu ça. Tiens, c'est super intéressant. Ce qui donne une très mauvaise ambiance à l'adolescence, qui est l'âge où on en devient, où on devient femme, pardon, et où il est très important d'appartenir au groupe. Alors on va se demander, les unes les autres, de prouver qu'on est assez féminine, qu'on est assez femme. Je passe une histoire personnelle et elle continue en me disant « J'avais malgré tout des copines avec qui j'avais des choses en commun, mais je crois que la peur de finir par être rejetée parce que trop différente m'a jusqu'alors empêchée de lier de vraies amitiés profondes. Je suis toujours en train d'apprendre à faire confiance et, comme dans les relations amoureuses, en train d'apprendre à identifier ce qu'il y a, ce qui peut être des red flags ou des green flags. Des femmes à qui je peux m'ouvrir, d'autres avec qui je ne suis tout simplement pas faite pour m'entendre, et c'est comme ça. » Je trouve ça très intéressant d'être venue parler de cette notion d'appartenir qui se développe beaucoup effectivement à l'adolescence, ou quand on voit qu'on est un petit peu différent. Ça peut être difficile pour nous d'avoir le sentiment d'appartenir à un groupe, etc. Ça peut être, appartenir à un groupe, c'est souvent une forme de validation pour soi, qu'on est sur le bon chemin, c'est plus confortable en fait, tout simplement. Et puis je pense qu'on est beaucoup à avoir vécu ça de façon assez difficile dans l'enfance ou dans l'adolescence. Et effectivement, comme dans toute relation, les relations entre femmes, bah, y a des femmes avec lesquelles on peut s'entendre, d'autres avec lesquelles on n'est pas faite parce que bah, tout simplement, soit on n'a pas conscience des mêmes choses, soit on n'est pas intéressé par les mêmes choses. La seule, je pense, composante dans tout ça, il me semble que c'est le respect. La composante de base qu'il nous faut à toutes, c'est le respect. Et quand je parlais de misogynie interne, ça me fait penser à... Et j'ai des... Voilà, je connais des gens qui font ça où... Tu vas regarder une fille sur les réseaux sociaux et pour X ou Y raison, parce qu'elle ne rentre pas dans tes normes, parce qu'elle ne rentre pas dans ton système de morale ou de valeur, tu vas commencer à insulter l'autre. Je ne sais pas si vous avez des gens comme ça autour de vous, mais moi c'est quelque chose qui me choque assez et contre lequel je, en repas, entre potes, je peux être hyper relou avec tout le monde parce que je ne supporte pas que tout d'un coup, ah tiens, machine, elle a fait ci, elle a fait ça, cette pute, ah mais ça je ne peux pas quoi, juste c'est, ça ne, ça, non, c'est, Je veux dire, je pense que si on est les premières à s'insulter entre nous, c'est le pire et c'est une preuve, à mon avis, beaucoup d'un manque de confiance en soi, d'un manque... Quand on en est là à ne pas se respecter entre nous, parce que quelqu'un fait quelque chose de différent de soi, je pense que c'est qu'il y a un vide, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'est pas venu combler à l'intérieur. Peut-être que cette personne, elle fait quelque chose, elle exprime une liberté que nous, on ne peut peut-être pas s'autoriser, peut-être qu'elle exprime une valeur avec laquelle on est fondamentalement contre parce qu'on aurait peur d'être rejeté, de ne pas être aimable, de ne pas être digne si nous, on faisait la même chose. Et du coup, on se donne le droit de retirer de la respectabilité ou de la dignité ou de la valeur à cette personne par nos mots. Et je trouve ça hyper grave. Enfin, c'est une des choses qui me choque le plus et c'est une des choses où je pense qu'on peut voir vraiment ce côté misogynie intégré avec le temps. Voilà, j'irai pas sur des discours à la pick me ou des trucs comme ça, mais où vraiment on sent que il y a quelque chose qui nous manque à nous. Je pense qu'il faut voir les choses comme ça. Quand on a à l'intérieur de soi, il faut qu'on soit vraiment toutes vigilantes sur ce que je vais dire parce que je pense que c'est là qu'on va commencer ensemble à grandir. Quand personnellement, on sera allé voir ce qui se joue, on pourra traiter les autres femmes avec la dignité, la valeur, le respect que l'on mérite toutes. Et donc pour ça, le travail à l'intérieur, c'est d'aller voir mais pourquoi je ressens le besoin de la diminuer? Pourquoi je ressens le besoin de critiquer? Bah parce que j'ai l'impression, et ça va faire mal peut-être à certains égos, qu'elle est au-dessus de moi sur un certain niveau. Je l'ai déjà dit, la critique facile, les jugements, ce sont souvent des choses et qui viennent de personnes qui ne sont pas au même niveau d'expérience que vous, qui ne font pas les mêmes choses, etc. Quelqu'un qui est passé par le même chemin que vous et qui est même, entre guillemets, plus avancé que vous, ça peut être par exemple dans un business, jamais il sera dans un jugement de votre travail. Jamais il sera dans un jugement. Il sera dans un encouragement et vous dira « Allez, viens, monte à mon niveau, je vais te montrer comment on fait, je vais t'aider, tu peux le faire, je sais que tu peux le faire, moi je l'ai fait, tu peux le faire, t'as tout ce qu'il faut en toi. » C'est pour ça que les gens deviennent coach, deviennent thérapeutes, c'est pour ça que les gens vous partagent beaucoup de conseils dans les réseaux sociaux, c'est parce que à certains niveaux et à certaines étapes, elles savent qu'elles peuvent vous aider. Donc elles sont prêtes à tout vous donner, elles sont prêtes à... Enfin en tout cas c'est comme ça que je conçois les choses, les gens sont prêts à venir vous aider, ils sont généreux dans leur don parce que eux le chemin ils l'ont déjà fait. C'est comme les gens qui sont des... Enfin, c'est un drôle d'exemple, mais les gens qui font du bricolage et qui ont retapé leur maison, vous verrez que ce sont les premiers à vous dire « Je vais t'aider, je vais me donner un coup de main, je viens tel jour si tu veux, tiens, fais plutôt ça, je te conseille ça. » Ils seront toujours là pour vous aider parce qu'ils savent ce que c'est que de rénover. Ils savent ce que c'est que de ne pas savoir et d'avoir des recherches à faire et d'avoir à demander à tout le monde et l'angoisse de se tromper, etc. Ce sont des gens qui vous tendront la main. Tandis que ceux qui n'ont jamais fait de rénovation, bah, ils ne vont pas naturellement forcément se proposer, sauf si c'est un sujet qu'ils aiment et que voilà, ça les intéresse de bricoler, mais ils ne vont pas naturellement se proposer, hein, parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec le sujet. Ils vont être plus prompts à critiquer, ils vont être plus prompts à vous dire « Mais pourquoi tu fais comme ça? J'aurais pas fait ça, j'aurais pas fait tout d'un coup, j'aurais... » Tu vois? Parce que c'est pas leur expérience, donc c'est facile. La critique est facile. Ça me fait penser aussi, je vous donne un troisième exemple. Astier disait... Astier, vous connaissez peut-être pas Astier. Alexandre Astier, le gars qui a écrit Kaamelott, qui a fait des super spectacles. Enfin, je suis hyper fan de ce mec. Il racontait que, par exemple, avec Shabba, quand ils se passaient leur script, quand ils se passaient leur projet pour voilà, faire de la révision ou pour avoir des conseils, etc., en tant qu'auteur, chacun, ils étaient extrêmement respectueux du travail de l'autre et c'était plutôt du genre à dire Ah, peut-être, qu'est-ce que tu as voulu dire par là? Est-ce que tu peux peut-être... Voilà, avec des pincettes, avec de la douceur, avec un respect immense pour le travail de l'autre. Parce qu'ils savent chacun ce que c'est d'écrire un scénario. Ils savent ce que c'est d'écrire des dialogues. Ils savent ce que c'est d'écrire une histoire et à quel point c'est demandant comme exercice. Donc, il racontait cette pudeur et cette douceur avec Shabba. Et il disait qu'au contraire, le trou du cul qui n'a jamais fait ça ou qui a un autre métier dans le cinéma, lui va peut-être plutôt être très incisif et dire « mais pourquoi ? Mais ça, c'est nul. » Mais nan. Donc, en général, là encore, retenez ça. Quand vous avez envie de critiquer ou quand on vous critique, ce sont des personnes qui sont, j'aime pas ce côté pyramidal et vertical, mais ce sont des gens qui n'ont pas marché dans vos pas encore, qui n'ont pas marché dans les mêmes directions, qui ne savent pas de quoi ils parlent. Donc c'est facile de suggérer, c'est facile d'aller dire quelque chose. Les gens qui savent, les gens qui ont expérimenté, ils ont expérimenté l'échec, ils ont expérimenté la réussite, et donc ils ont beaucoup plus facilement de douceur, ils ont beaucoup plus d'admiration pour la personne qui est en chemin vers eux. Même chose, vous êtes à la salle de sport, les gens qui vous critiquent, ce sont les gens qui débutent comme vous. Ou ce sont les gens qui, à la rigueur, n'ont vraiment rien compris, mais des gens qui sont avancés à la salle, ils vont vous dire « Ah bah tiens, peut-être tu pourrais faire une petite correction parce que tu vas te faire mal au genou si tu fais ça. » Et ce sera fait avec respect, ce sera fait avec douceur, pour votre bien-être, pour votre intégrité physique, avec respect tout simplement. Et donc dans la vie, c'est la même chose. Quand vous convoitez ce qu'une autre fille a, quand vous êtes jalouse, dites-vous « mais qu'est-ce qui à l'intérieur de moi me fait croire que je ne suis pas aussi bien qu'elle ?» Pourquoi je suis en train de croire, par exemple dans la jalousie, pourquoi je suis en train de croire qu'elle, elle a mieux que moi là ? Et que je dois lui retirer ce qu'elle a, parce que la jalousie, ça part de ça. Je lui retire ce qu'elle a pour que ce soit pour moi. Travaillez plutôt avec admiration. Oh, c'est génial qu'elle ait fait ça. J'ai envie de la rejoindre, j'ai envie de faire pareil qu'elle. Peut-être que je peux lui demander un conseil. C'est plus du tout la même énergie. Et là, vous pouvez rencontrer des gens extraordinaires, hommes ou femmes, avec lesquels connecter, parce qu'eux, ils ont passé le même chemin que vous. Parce qu'eux, ils auront une admiration sans borne pour ce que vous êtes en train de faire, pour le travail intérieur que vous êtes en train de faire. Parce qu'eux, ils vont vous regarder avec toutes les capacités que vous, vous ne voyez pas en vous-même. Et c'est ça souvent qui se passe quand on se regroupe entre femmes. On va avoir souvent, dans les cercles de parole, par exemple, que j'ai pu expérimenter, la possibilité de déposer de la vulnérabilité, se rendre compte que malgré tous nos masques, tous les murs qu'on a érigés, on a toutes des blessures en commun. Et quand on va voir cette femme s'exprimer, elle va nous donner la possibilité d'être vulnérable. Et on va voir dans sa vulnérabilité toute sa force, toutes ses leçons. Et dans toutes ses leçons, on va se dire « mais moi je peux appliquer les mêmes » ou « moi j'ai les mêmes ». Donc j'ai cette vulnérabilité en moi, j'ai cette force en moi, j'ai cet amour en moi, j'ai tout en moi comme elle. Et de là, on n'est plus en compétition. Parce qu'on a rempli ce qu'il y avait à l'intérieur. On a arrêté de se voir comme des concurrentes. On commence à se voir comme peut-être pas des sœurs, parce que pour certaines personnes, elles ne sont pas prêtes à entrer dans cet état d'esprit, mais comme des complices, peut-être. Et pour d'autres, comme des sœurs. Je crois que c'est là le travail profond qu'il nous est demandé de faire, pour commencer à relier avec les autres et de pardonner aussi à toutes celles qui nous ont critiquées, qui nous ont rabaissées, en reconnaissant que du coup, ce qu'elles critiquaient, c'était une part de nous qu'elles ne s'autorisaient peut-être pas elles-mêmes. Peut-être même à un âge où on est bête. Mais franchement, à l'adolescence, on est bête. Même moi, je me croyais super intelligente et j'étais pas hyper intelligente. Je pense que j'avais une grande sensibilité, une grande réflexion qui parfois me semblait être en avance, mais c'était pas toujours le cas, c'était pas le cas sur tous les sujets. Et il y a certainement des jeunes femmes peut-être que j'ai blessées sans m'en rendre compte. prenons la responsabilité de tout ça et décidons qu'on n'a pas besoin d'être amis avec tout le monde, mais on peut respecter tout le monde. On n'a pas besoin, et que parfois, si c'est difficile pour nous, par exemple, d'accepter que quelqu'un marche mieux que nous, marche plus loin que nous, etc., c'est notre problème, c'est pas le problème de l'autre. Donc, respecter l'autre dans sa réussite, apprendre à célébrer l'autre dans sa réussite, apprendre à soutenir l'autre dans ses difficultés, avec une écoute aimante, avec... je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup à apprendre là-dessus. Je pense que la génération de nos enfants, elle va avancer, j'espère de tout cœur qu'elle va avancer mieux avec ça, parce que nous, en tant qu'adultes, on aura peut-être défait cet esprit de compétition et qu'on va leur insuffler beaucoup, beaucoup cet amour, que ce soit d'ailleurs aux petits garçons ou aux petites filles, ça change rien du tout. Parce que pareil, hein, je pense que finalement, on vit des choses qui sont au final similaires à ce que vivent les hommes dans cet esprit de fraternité. La compétition qu'on retrouve entre femmes, même si eux, comme le disait Sabrina, il y a ce côté aussi très valorisé d'entraide, une équipe, un groupe, un gang. Il y a un truc où c'est une énergie très très masculine d'être ensemble. Tu vois, d'être ensemble, d'y arriver ensemble, de former une équipe. C'est marrant, ça me fait penser à mon papa qui lui, dans sa carrière professionnelle, a géré beaucoup de gens et qui avait vraiment à cœur ce projet d'équipe, etc. Donc, je pense qu'entre eux, ils ont cette... chez les hommes, il y a ce truc aussi souvent de comparaison et de compétition qui est très fort. Et qu'en général, ils ont aussi ce pendant très « on est une équipe, on va le faire ensemble, on va y arriver ». Voilà, c'est comme l'émission Click de Mouloud Achour, où tu vois, il y a un esprit quand même masculin très lié à la bande et au ensemble. Et nous, entre femmes, j'ai pas l'impression que ce soit ça. Les plus gros archétypes sociétaux de la femme en groupe, ça va être la « mean girl ». Ça va être la sorcière, enfin on est vraiment dans des trucs, c'est hyper noir, c'est hyper négatif, tu vois, c'est hyper lourd. Donc non, revisitons tout ça ensemble, revisitons avec amour là où nous on a l'impression de ne pas être assez, pour être capable d'admirer les autres, de soutenir les autres. Ceux qui ne sont pas capables de nous soutenir, de nous admirer, de nous donner du respect, de nous donner de l'amour, eh bien on les bénit loin de notre vie. Voilà, c'est un conseil général, homme ou femme, bénissez hors de votre vie, ne restez pas avec des gens comme ça, pardonnez-leur, baignez-les dans la lumière, mais loin de vous, et si un jour ils sont prêts à faire un pas dans une autre direction, eh bien très bien. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Il y a ce truc très... où je pense qu'on a besoin d'apprendre à être ensemble dans une société... très individuel et où c'est bien d'avoir appris individuellement, où la guérison elle vient de « je me sens suffisant pour ne pas me sentir menacée par qui que ce soit ». Et ça c'est beau, et c'est quand on commence à être dans cet esprit-là qu'on commence à avoir des relations qui prennent vraiment sens et qui sont profondes et qui sont belles. En tout cas, de mon côté, c'est à partir de ce moment-là que ça a tout changé. C'est quand j'ai commencé à être dans un groupe, quand j'ai commencé à expérimenter les coachings de groupe, les cercles. Il y a des choses très très fortes qui se passent à ce moment-là. Et c'est pour ça que j'avais créé à l'époque le cercle, mon truc. Je suis fatiguée, excusez-moi. Mon offre de groupe, justement, avec du coaching à vie dedans. Là, je suis en train de la refaire, cette offre. Je vous ai tout expliqué d'ailleurs dans le podcast qui s'appelle « J'arrête, mais » 3 petits points. Et j'ai vraiment senti que cet esprit de groupe que je voulais, il n'était pas encore arrivé au niveau que je le souhaitais. Même si quand les filles se connectent ou quand Maxime se connecte, parce qu'il y a aussi un garçon. Bref, quand les gens viennent en session de coaching, il y a cette admiration, il y a ce soutien... Il y a ce respect, il y a ce merci d'avoir apporté ce sujet parce que vraiment je sens que moi aussi ça me parle, etc. Il y a toujours ces synchronicités-là d'ailleurs de bah tiens, je traverse ça, donc ça me parle beaucoup que tu viennes m'en parler. Et en dehors de ces sessions, j'avais envie de créer plus d'interactions entre les gens. J'ai pas envie finalement que dans cette nouvelle offre que je fais, je sois au centre. Enfin, je suis coach, je suis là pour vous aider, donc je suis selon moi quelqu'un un peu un référent, quelqu'un à qui vous pouvez venir demander un coaching pour pouvoir avancer. Mais je veux aussi que vous puissiez trouver vos alliés, que vous puissiez trouver vos sœurs, que vous pouviez trouver des gens avec qui collaborer, des gens qui vous soutiennent. Parce que entre les séances de coaching, qu'est-ce qui se passe? Et donc c'est pour ça que j'ai créé un groupe. Je vais d'ailleurs, je pense assez prochainement proposer aux personnes qui sont déjà dans le cercle de tester ce groupe. Et voilà, l'idée c'est de vraiment créer vraiment un espace où vous pouvez connecter entre vous, où vous pouvez venir me dire bah tiens là j'aimerais bien un coaching, ou là j'aimerais bien que tu viennes parler de tel sujet, où entre vous vous pouvez vous motiver, vous pouvez vous célébrer, etc. Et voilà, c'est ça qui me fait envie, c'est de créer ce genre de d'expérience, de connexion, de lien de cœur qui me semble extrêmement importante. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le sujet. Sachez également que au moment où vous allez recevoir ce podcast, il restera très très peu de jours pour accéder à l'offre exceptionnelle de fin, de clôture, de célébration de la fin, de célébration de la nouveauté, on va dire, du cercle. Le cercle, c'est mon offre actuelle, je vous l'ai dit, avec du coaching de groupe et l'accès à mon programme. C'était une offre sur laquelle il y avait un accès à vie, c'est-à-dire que les gens qui sont actuellement dans cette offre, ils vont bénéficier de la nouvelle offre, de l'offre renforcée, on va dire, du cercle, qui aura un autre nom, etc. Mais c'est la même offre en soi, avec plus de choses dedans. Ils vont bénéficier de ça sans débourser le moindre sou, parce qu'ils ont payé un accès à vie avec moi sur du coaching, sur le programme, etc., etc. J'ai décidé, parce que ça va être la fin de cette formule en avril, j'ai décidé de faire une offre promotionnelle vraiment très forte qui vous fait économiser minimum 200 euros. Minimum 200 euros pour accéder à ce service. Donc vous avez une économie de 200 euros, vous payez seulement 300 euros pour accéder à ce service, à la future version qui arrive au mois de mai, qui arrive à la mi-mai exactement. Et donc voilà. Et j'ai aussi décidé de faire une offre promotionnelle sur mon coaching privé qui n'est plus à 1500 euros, qui est à 1111 euros avec possibilité de paiement en plusieurs fois. Et lui, il vous donne accès aussi à vie à cette ancienne offre, à la nouvelle offre, et il vous donne accès à 12 séances de coaching. Sachez que c'est la dernière fois que je facture à vie. C'est la dernière fois que vous rentrez dans mon monde et que vous n'aurez plus jamais à régler quoi que ce soit lié à l'offre de coaching de groupe. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vous pouvez réserver ça en venant me contacter. C'est aussi possible maintenant sur mon site. Je vous ai mis la possibilité de réserver tout ça sur mon site internet lauracardozo.fr. Sachez également que vous pouvez vous inscrire à ma newsletter. Pareil, je vais vous mettre un petit encart sur lauracardozo.fr. Je vais vous mettre le lien ou les liens directement dans les notes du podcast si ça vous intéresse. L'offre se termine le 30 avril. Le 30 avril, c'est mardi si je ne me trompe pas. Donc au moment où vous allez écouter ça, il vous restera 3 jours si vous êtes un top auditeur du podcast. Il vous reste 3 jours pour sauter sur cette offre et il y aura une nouvelle offre au moment du lancement, mais elle ne sera jamais aussi intéressante. Je ne ferai plus jamais d'offre à vie. Donc là, voilà, c'est une dernière célébration. C'est un dernier cadeau aussi pour les personnes qui peut-être n'auront pas les moyens de s'offrir la suite. Par la suite, je vous proposerai plutôt des accès au mois, pour 6 mois ou pour 1 an, mais jamais plus. Voilà, je trouve ça bien de vous proposer ça une dernière fois, de célébrer avec vous. Pour moi, c'est une façon de tourner la page parce que ce qui arrive est beaucoup plus joyeux, ce qui arrive est beaucoup plus lié à l'esprit collectif et ce qui arrive est beaucoup plus, pour moi, aussi clair parce que, vous le savez, en tant que coach, j'ai voulu vous accompagner sur beaucoup de sujets et j'ai eu parfois du mal à vous dire exactement ma zone de génie, vous dire exactement là où je pouvais vous aider et je dois vous dire que c'est très très fort pour moi de me rendre compte qu'il y a une thématique qui m'a suivie toute ma vie. J'ai retrouvé une photo d'un agenda d'ailleurs de l'époque du collège où je marque quelque chose comme « Je veux aller au bout de mon rêve, mais je ne sais pas si j'y arriverai. Je veux aller au bout de mon rêve, je ferai tout pour y arriver, je ferai tout pour y arriver. » Et la thématique du rêve, d'aller au bout de ses rêves, de créer des choses qui nous passionnent, de créer des choses qui nous allument profondément et d'aller au bout de ça et de le vivre de façon agréable. Et c'est le cheminement de ma vie, c'est le thème de ma vie et je pense que c'est là où je suis prête à vous aider. C'est d'être la rêveuse, devenir celle qui accomplit avec audace, avec fierté et aussi avec cette sérénité dont on parle dans le podcast parce qu'on n'est pas obligé d'accomplir ses rêves en se faisant du mal et dans la souffrance. Je l'ai expérimenté. Ça sert à rien, ça comble rien et on n'en profite pas, donc c'est nul. Donc j'ai envie de vous proposer autre chose, mais de tout ça, on va en parler encore plus. Si ça vous appelle, si vous sentez que c'est une thématique pour vous parce que vous êtes du genre à rêver beaucoup, à passer des heures sur Pinterest, mais à ne jamais concrétiser vos rêves ou votre vision parce que ça bloque à l'intérieur, parce que vous, pour plein de raisons qui vous appartiennent, sautez dans l'offre dès maintenant. Ça va changer votre vie. Je vous aime fort et je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!